Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. On parle un petit peu de culture, mais pour les artistes amateurs, les temps ne sont pas si faciles que ça. Comment font-ils d'ailleurs pour s'entraîner, pour répéter, pour se voir, surtout quand on est en groupe et qu'on n'a pas le droit de se voir justement? Ça va être le cas tout à l'heure en deuxième partie de cette émission où nous serons avec la troupe du théâtre de travers à Pradines qui nous expliquera quelle est sa manière de répéter actuellement, alors que ça fait quand même un an qu'ils n'ont plus droit de se voir pour se produire. Mais dans un premier temps, premier reportage, concernant le retour de la grippe aviaire ici dans le sud-ouest. Il y a eu quand même quelques 2 millions de volailles qui ont déjà été abattues. Nous allons en savoir plus avec Pierre Dufour, le co-porte-parole de la Confédération paysanne du Lot. C'est notre premier invité. Bienvenue sur CFM Cahors, c'est votre mag. Et apparemment, ce serait donc le retour de la grippe aviaire dans le sud-ouest. Mais est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut? C'est pas du tout ce que pense la Confédération paysanne. Nous sommes avec Pierre Dufour, qui est porte-parole de la Confédération paysanne du Lot. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Est-ce que je pose bien la question? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut?
Ce qui est certain, c'est que c'est pas le premier épisode qu'on vit. On est au troisième épisode en 5 ans et les leçons des premiers épisodes, elles n'ont pas du tout été tenues. On repart exactement dans la même chose. Donc il y a plusieurs choses qui sont d'une part la pauvreté des moyens de prévention sanitaire comme tous les services publics. Hein. C'est pas propre, mais on le constate aussi au niveau de l'agriculture. Et puis la deuxième chose, c'est en fait la négation par les filières de leur responsabilité et en particulier après la première crise, on a eu une réunion au ministère, la deuxième crise était déjà démarrée, où on faisait le bilan de la première crise et où Jean-Luc Guérin, professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui est spécialiste de la grippe aviaire en France, a ciblé tous les points qui posaient problème au niveau des filières industrielles. Et ce rapport, il n'a jamais été rendu public, nous n'avons jamais pu l'avoir. Alors qu'il pointait du doigt tous les problèmes de surconcentration des animaux, de surdensité des élevages dans certaines zones, de multiplication des transports entre l'élevage, le gavage, l'abattage. Et donc toutes ces choses-là, en fait, il n'y a rien qui a été fait pour essayer d'y remédier. Et on continue toujours dans la même logique de montrer du doigt l'élevage fermier en plein air. Alors que nous, on est dans des systèmes qui sont en autarcie, c'est-à-dire qu'une fois que le caneton ou la volaille est rentré sur la ferme, en général, il est abattu sur place ou dans des abattoirs collectifs de proximité. Donc il y a vraiment... nous, on est déjà en fait confinés et donc les risques de propagation au niveau de nos fermes sont quasi nuls, quoi.
Pierre Dufour, quels sont les arguments, peut-être même scientifiques, que l'on vous oppose pour dire si, effectivement, ça vient de vous? S'il y en a.
Le problème, justement, c'est que les arguments scientifiques, il n'y en a pas. Parce que, notamment, on accuse les oiseaux sauvages, mais jusqu'à preuve du contraire, tous les cas qui ont démarré, ils ont démarré avant qu'il y ait des cas dans la faune sauvage. Et lors de la première crise, l'ANSES, qui est donc l'autorité nationale sanitaire, a fait une enquête, a prélevé 600 oiseaux autour des bâtiments contaminés. Et sur ces 600 oiseaux, aucun cas ne s'est révélé positif. On s'aperçoit en fait que le virus qui circule dans la faune sauvage et le virus qui circule dans les élevages industriels, c'est pas le même, quoi. Donc il n'y a aucun argument scientifique valable pour étayer la mise en cause de l'élevage fermier en autarcie. Au contraire, nous, on est vraiment dans des systèmes où les risques de contamination sont quasi nuls, puisque, je vous dis, on reste... les animaux ne sont pas déplacés, ils font tout leur cycle au même endroit. Okay. Alors après, il y a d'autres choses, hein. C'est que, en fait, l'industrialisation, c'est aussi de la spécialisation, de la standardisation génétique, où on va rechercher les critères de productivité de rentabilité pour raccourcir les cycles, etc. Mais cette sélection, elle se fait au détriment d'autres caractères qui sont notamment la résistance, la réponse immunitaire aux maladies, sans parler des conditions d'élevage, de densité qui font qu'on a des atmosphères qui sont irrespirables dans les bâtiments et qui forcément favorise le développement des maladies. Et puis quand vous avez, si vous voulez, quelqu'un comme moi qui fait 1000 canards par an, qui a des lots de 200 canards, quand vous avez un virus qui vient, il va forcément moins se multiplier que quand vous êtes dans des bâtiments de 20 000 canards, où là la multiplication est multipliée de façon exponentielle et les risques de mutation sont beaucoup plus élevés.
Alors c'est bien beau cela, mais du coup vous proposez quoi vous? Qu'est-ce que vous leur dites comme proposition?
Bah déjà, si vous voulez, nous, ce qu'on avait proposé dès le départ, dès le début, dès la première crise, et si on nous avait écouté, la deuxième crise n'aurait pas eu lieu, c'était le dépistage systématique des canards prêts à gaver quand ils vont vers les salles de gavage. Si on avait écouté la Confédération de paysannes, les canards du Tarn, ils auraient été dépistés, ils n'auraient pas été envoyés dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, avec les conséquences que ça a eues, 4 millions de canards abattus, et on est en train de repartir exactement sur le même scénario. Alors, l'argent qui a été mis, enfin, une des propositions qui avait été faite, et c'est toujours une proposition qu'on fait, c'est de relocaliser les productions. Vous avez aujourd'hui des canards qui sont élevés dans le Tarn, qui vont être gavés dans les Pyrénées-Atlantiques et qui vont être abattus dans le Lot-et-Garonne. Donc on a des animaux qui se promènent dans tous les sens. Donc une des premières choses qu'on dit, c'est relocaliser la production, relocaliser les élevages, les salles de gavage autour des abattoirs. Il faut réorganiser les choses. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux entreprises de la filière qui vont sur le libéralisme à tout craint. Il y a eu une réunion du CIFOG après la première crise où on a dit il faudrait profiter de la crise pour réorganiser un peu la production, modérer la production pour conserver des coûts raisonnables. Et puis trois semaines après, tout le monde est reparti à dire on recrute des gaveurs. Et on a des stocks, on se retrouve avec des frigos pleins. Il faut quand même savoir, et ça on peut pas l'imputer à la crise du Covid et à la fermeture des débouchés sur la restauration, etc. Il y a 200 tonnes de magret congelés qui ont été jetés à la poubelle. Donc ça veut dire qu'ils avaient dépassé le délai de conservation de 2 ans. Donc c'est pas imputable aux conditions qu'on vit actuellement. Et ces 200 tonnes de magret ont été balancées dans des méthaniseurs. Voilà. Donc il y a un moment où il faut se dire qu'il faut arrêter cette surproduction, cette surdensité, cette course qui amène à ces crises.
Donc vous êtes sur votre parole, Confédération paysanne, depuis le début, quoi. Le circuit court, c'est la solution à tout.
Après, je veux dire qu'il y a des marchés dans lesquels, évidemment, le circuit court, c'est la vision de l'agriculture qu'on a qui est pour nous celle qui est la plus résiliente, la plus résistante. Et après, il y a des filières longues qui sont destinées à d'autres marchés, mais elles peuvent exister. Mais on est dans une dérive qui est sans fin. On n'arrivera jamais de toute façon à concurrencer la Bulgarie, les pays de l'Est en termes de compétitivité, donc il faut aussi réfléchir à se recentrer sur les marchés. Et ce qu'on constate, c'est que l'argent qui a été mis pour améliorer la biosécurité sur les élevages, déjà les petits producteurs, ils n'en ont pas beaucoup profité parce qu'il y avait un plancher minimal de demande pour pouvoir y accéder. Donc tous les petits qui ne voulaient pas faire 3000 euros d'aménagement, ils n'y avaient pas droit. Et tout cet argent, il a été mis pour reconstruire de nouveaux bâtiments, plus grands, plus gros, rajouter un bâtiment sur donc encore pour augmenter la densité de la production alors que c'est le problème.
Quelle est votre crainte si rien ne change à la Confédération paysanne?
Nous, on se bat déjà, la première chose, c'est pour avoir le droit d'exister, parce que la production fermière est constamment remise en cause. Elle est remise en cause sur les fromages au lait cru, elle est remise en cause sur le porc en plein air, elle est remise en cause sur les volailles, alors que c'est pas le problème, l'élevage fermier, c'est la solution. Donc, nous, on se bat déjà pour faire valoir notre mode. On a construit avec la Confédération paysanne, le MODEF, l'association des AMAP, un cahier, un guide de biosécurité adapté à nos élevages. Donc voilà, il faut respecter notre spécificité en disant que notre mode de fonctionnement est beaucoup plus sécurisé au niveau sanitaire que la production industrielle. Donc il n'y a aucune raison de vouloir éradiquer notre production. C'est quand même assez paradoxal. Vous voyez toutes les publicités à la télé où on vous montre les œufs produits en plein air avec 6 poules sur un beau gazon bien vert, alors que la réalité est tout autre. Elle est des bâtiments industriels avec des fortes densités. Et voilà, donc l'élevage fermier a toute sa place et on est là pour le défendre. Et donc on appelle à venir soutenir la Confédération paysanne, le MODEF, que les citoyens, les élus viennent soutenir l'élevage fermier pour qu'on puisse encore manger des volailles de bonne qualité dans ce pays.
Merci beaucoup Pierre Dufour.
Et bien merci à vous CFM.
Et dans un instant, nous allons du côté du Théâtre du Travers, compagnie de théâtre amateur, qui se situe donc du côté de Pradines. Ça fait quand même un an qu'ils n'ont pas pu répéter. Et pourtant, ils s'entraînent encore. Mais de quelle manière? Nous allons le voir avec leur président dans un instant. Silence, c'était Delirium sur CFM Cahors.
Oh. Oh, t'es là?
T'es là?
T'es pas là?
CFM.
Toujours là. Pour le rock.
Toujours là pour le rock.
Eh bien, comment ça se passe? On va le savoir avec Gérard Felzin, le président d'une troupe de théâtre, le Théâtre du Travers. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors, président du théâtre depuis un petit moment, j'imagine?
Non, je suis président que depuis 2 ans, mais je suis dans la troupe depuis son origine, c'est-à-dire en 1987.
D'accord, donc ça continue encore et encore, ouais. Sauf en ce moment, c'est un peu calme.
Ah ben en ce moment, c'est plus que calme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'œuf, on est en gestation là.
Alors, est-ce qu'il y avait des spectacles qui étaient prévus que vous n'avez pas pu faire?
Oui, nous avions 4 spectacles en route et qui ont été arrêtés dans la course, quoi. Et nous attendons la possibilité de pouvoir l'exprimer. D'autant que pour les amateurs, c'est encore plus difficile, pas sur le plan financier, bien sûr, puisque nous n'en décidons pas de notre vie, mais sur le plan pratique, les professionnels ont pu continuer à pouvoir répéter directement et nous, on avait interdiction de répéter.
Donc ça, c'est on le prend comment? Comme une injustice?
Non, on ne peut pas dire que c'est une injustice au sens de dire. C'est surtout une incompréhension, plus qu'une injustice, dans le sens où quand même, on se pose la question pourquoi certains pourraient répéter et pas d'autres. Mais ce n'est pas ressenti, enfin à mon niveau, je ne le ressens pas forcément comme une injustice.
Comment vous voyez, alors non l'avenir, on va peut-être venir un peu plus tard, d'abord voyons un petit peu le présent, ou même le passé, au premier confinement, comment vous êtes adapté à la situation? Donc rien du tout, là, j'imagine.
Mais si, dès le début, nous avons pris la décision de continuer à pouvoir répéter par l'intermédiaire de les réseaux sociaux, et là, nous continuons d'ailleurs à répéter, mais bon, bien entendu, on ne peut répéter qu'au niveau du texte et non pas au niveau de la pratique même du théâtre. C'est très difficile de donner des intentions de jeu à travers un écran.
Donc en gros, si là, pour imager, vous êtes chacun derrière votre ordinateur et en fait, vous envoyez vos relances selon le texte, comme si vous jouiez, mais voilà. Vous faites de la lecture.
Voilà, c'est ça. Non, c'est même pas de la lecture, c'est carrément dire le texte, c'est-à-dire que bon, moi, je dois, dans ce rôle actuel, je suis metteur en scène, donc je les vois tous, et ils se voient tous d'ailleurs, et chacun donne sa réplique en essayant de donner le rythme un peu, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est de maintenir le texte en surface.
Mais comment le metteur en scène travaille dans ces conditions? Parce qu'on a l'image du metteur en scène qui place les gens, etc. Mais là, comment ça...
C'est impossible de travailler dans ces conditions-là, à ce niveau. Non, simplement, bon, le but, c'était quand même de garder le lien, de garder le contact, de ne pas laisser tomber, parce que si on reste plusieurs mois sans se voir, eh bien, ça s'effrite. Même les plus motivés arrivent à lâcher prise. Donc le but, c'était quand même de rester en contact. Et effectivement, depuis un an, on est en contact. On travaille, on essaye de maintenir. D'ailleurs, là, dans une heure, nous allons travailler pour la xème fois le texte. Voilà.
Je pense qu'après, une fois que vous allez pouvoir vous revoir, le texte, là, vous le connaissez par cœur. Hein.
Alors, peut-être que c'est aussi de bien cerner les aspects positifs qu'on peut tirer des situations négatives. À savoir que, ben, là, oui, le jour où on pourra se voir, on n'aura plus le souci de l'apprentissage du texte pendant qu'on est en train de répéter. Parce que souvent, dans les amateurs, c'est ce qui se passe. Autant chez les professionnels, on peut imaginer encore que on travaille avec le texte su. Mais là, chez les amateurs, souvent, le texte se cale au fur et à mesure des répétitions.
Est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez?
Alors, bien sûr. Donc, il y a plusieurs spectacles. Bon, celui dont je parle et que je mets en scène s'appelle « Diagnostic réservé » de Jean-Pierre Martinez, qui est une pièce un peu humoristique et un peu policière, voilà. Et c'est ça, il y a 6 personnages. Ensuite, il y a une pièce de Guy Foissy, où il y a 3 personnages. C'est « Critorium », ça s'appelle. C'est 3 femmes qui se retrouvent autour d'un abribus pour crier. Donc, on peut imaginer qu'il y a une censure du cri, voilà, ça se parle de ça. Ensuite, il y a un one-man show qui est monté par... Peut-être on aura la chance de pouvoir jouer avant l'été, qui celui qui est prêt. C'est notre ancien président donc, qui a monté son show, qui s'appelle « Mon dernier show avant d'être froid ». Ça veut tout dire. C'est humoristique, donc c'est un peu un bilan de sa vie, puisqu'il veut le jouer pour ses 70 ans. Voilà, donc ça, il est seul en scène. Après, donc, nous avons un spectacle qui tourne, mais qui a déjà été joué, celui-là, puisqu'il est déjà monté, mais qui continue sa vie, quand on pourra reprendre les représentations, qui s'appelle « De l'art ou du cochon », donc qui est une pièce aussi qui a eu un beau succès, qui, j'espère, continuera à avoir un beau succès. Et puis un one man show encore, mais qui est plus long dans le long du travail, qui s'appelle Le journal d'un fou de Gogol, qui est un classique, mais là c'est un gros travail.
Non mais faut arrêter là, mais vous êtes combien au Théâtre du Travers, parce que j'ai l'impression que vous êtes une troupe immense.
Alors nous sommes 35 au total, oui, même 37 cette année apparemment, malgré les choses, et nous avons aussi un atelier d'adultes qui se retrouve tous les lundis, dont il y a une dizaine de personnes qui ne sont pas distribuées dans un spectacle, mais qui monteront aussi des petites scénettes à jouer en fin de parcours, quand ils pourront reprendre aussi leurs répétitions.
Inutile que je demande quand est-ce qu'on pourra vous voir sur scène pour l'instant.
J'allais dire seul Dieu le sait, même lui il ne doit pas le savoir. Donc je ne sais pas.
Bon, on va suivre ça de très près, c'est le Théâtre du Travers, et c'était intéressant de savoir effectivement comment on travaille en tant qu'amateur, puisqu'on le répète, si les professionnels peuvent répéter, oui, bah vous non.
Oui, absolument, c'est ça. Nous, on a l'impossibilité de se retrouver pour répéter, donc on a trouvé, comme font beaucoup de troupes, c'est-à-dire d'essayer de rester en lien, en contact à travers les méthodes modernes.
Et ça marche.
Ça marche, mais bon, je pense que ce qui est quand même le fondement même du théâtre, c'est le côté relationnel immédiat, c'est toute la substantielle moelle que je veux dire. On ne peut pas dire qu'à travers un écran, on est dans les mêmes conditions.
Et puis le public.
Et c'est surtout ça, et je pense que une des problématiques est celle-là, c'est que le théâtre, c'est quand même une rencontre avec un public. Et même tous les écrans, on le voit bien, quand on regarde une pièce à la télévision, ça n'a pas la même teneur que de la voir en direct. Hein.
Mais Gérard Felzine, justement, je rebondis sur un truc. Si tu es metteur en scène, oui. Ça veut dire que cette période de calme, est-ce que tu en profites justement pour travailler sur les décors des pièces ?
Non, absolument pas, puisque là c'est pareil, on ne peut pas se retrouver pour travailler, donc on n'a rien fait depuis un an, on est en gestation.
Bon bah, c'était intéressant de savoir, merci Gérard Felzine.
Avec plaisir. Allez, on va travailler, on y va.
D'ailleurs, je me demande si je ne couche pas un petit staphylocoque doré, moi, à moins qu'il ne s'agisse d'une maladie tropicale. En tout cas, vous, mademoiselle Lajoie, vous avez une mine resplendissante.
Merci, docteur. C'est la carotène. Je ne suis pas trop loin.
Mais non, mon lapin. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?
Patrick Mariani, 40 ans. Le patient est dans un coma profond suite à un accident de Vélib.
Là, c'est un extrait de leur répétition, effectivement, puisque ça se fait via WhatsApp, en vidéo, et ils étaient 8 à répéter, ils étaient tous 8 en visioconférence, si on peut dire, et puis à répéter comme ça, parce que les circonstances le veulent, et nous aussi, on est très impatients en tant que public de revoir les artistes sur scène, y compris, bien entendu, les troupes amateurs, et notamment le Théâtre du Travers, qui est de Pradines. Allez, on leur souhaite bon courage, et puis on sait que du coup, avec toute cette période, ils ont pu travailler correctement leurs pièces, et c'est ça qui est le plus important. Ça va nous faire du bien. Allez, c'est la fin de ce magazine, rediffusion tout à l'heure à 17h et 21h30, et dans un instant, le journal.